Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition les 17h30, temps universel de ce 11 mars 2020. John Lydon à la présentation, tout d'abord les titres de cette édition. Umaro Sissoko Embalo est à Niamey. Le président autoproclamé de Guinée-Bissau a entamé une tournée ouest-africaine en vue d'asseoir son pouvoir. L'épidémie de coronavirus peut être considérée comme une pandémie selon l'OMS. Nous ferons l'état de la situation dans le monde au moment où un premier cas a été diagnostiqué ce mercredi en Côte d'Ivoire. En Afghanistan, les talibans exigent la libération de tous leurs prisonniers, 5000 au total. Ils ont rejeté ce mercredi l'offre du gouvernement afghan de les libérer graduellement et sur plusieurs mois. Ici aux États-Unis, Joe Biden consolide son avance dans la course à la présidentielle de novembre. L'ancien vice-président américain a infligé un revers majeur à Bernie Sanders. Ce dernier dit qu'il reste dans la course. Et puis, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Tournée ouest-africaine du président autoproclamé de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, tente d'asseoir son pouvoir alors que le résultat de la présidentielle continue d'être contesté. Les précisions de Michel Joseph.
Après Dakar, Umaro Sissoko Embalo est arrivé ce mercredi à Niamey, où il devrait s'entretenir avec le président nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CDAO, organisation assurant la médiation dans la crise bissau-guinéenne. Il s'agit de raffermir les liens de fraternité et de coopération entre le Niger et la Guinée-Bissau, a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur Twitter. À son passage à Dakar, Umaro Sissoko a été reçu avec tous les honneurs par le président Macky Sall. Il terminera sa journée jeudi au Nigeria. Déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle par la commission électorale, Embalo, qui est issu de l'opposition, s'est fait investir président le 27 février sans attendre l'issue des recours introduits à la Cour suprême par son rival Domingos Shimoho Pereira du PAIGC. La CDAO avait envisagé d'envoyer cette semaine des juristes à Bissau, mais s'est ravisée, Embalo ayant estimé qu'il s'agissait d'une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de son pays.
Le FBI et la police fédérale américaine va aider à l'enquête en cours sur l'attaque lundi matin contre le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok à Khartoum. C'est ce qu'annonce ce mercredi le ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Mohamed Saleh. Selon le porte-parole du gouvernement soudanais, l'équipe du FBI, composée de 3 experts, est arrivée ce matin dans le pays. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais le porte-parole du gouvernement a fait état aujourd'hui de l'arrestation de plusieurs suspects, dont des étrangers. Ici à Washington, le chef de l'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, le général Stephen Townsend, estime que les opérations anti-djihadistes des Européens au Sahel ne sont ni suffisantes ni assez coordonnées. Je pense que l'Europe peut et doit en faire davantage avant que les États-Unis en fassent plus dans cette partie du monde, a déclaré le général Stephen Townsend, le chef de l'AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique. Donc, c'était lors de sa déposition à la Chambre des représentants du Congrès sur la posture militaire américaine en Afrique. Au Malawi, les deux principaux partis d'opposition vont conclure donc une alliance électorale en vue de la présidentielle qu'il doit se tenir à mai après l'annulation pour fraude du scrutin de 2019. C'est ce qu'annonce l'une des deux formations. Dans un communiqué, le mouvement uni pour la transformation du vice-président Saulos Chilima a indiqué avoir décidé de former une alliance électorale avec le parti du Congrès du Malawi de Lazarus Chakwera. Depuis la présidentielle de 2019, les deux formations font front commun contre le président Peter Mutharika, déclaré vainqueur pour la commission électorale. Les talibans ont rejeté ce mercredi l'offre du gouvernement afghan de libérer graduellement donc et sur plusieurs mois 5000 prisonniers insurgés en échange d'une réduction importante des violences dans le pays. C'est ce qu'a déclaré un de leurs porte-parole, Ekiabadou.
Les 5000 prisonniers doivent être libérés en même temps, a affirmé Souheil Chahid, porte-parole des talibans, ajoutant que cela devra se passer avant les discussions inter-afghanes, durant lesquelles les insurgés et Kaboul doivent négocier l'avenir du pays. Ces négociations qui devaient démarrer mardi ont été reportées de facto, faute d'un accord entre les deux parties sur la libération des prisonniers. Les talibans ont fait de cet échange de prisonniers, qui figurait dans l'accord signé le 29 février à Doha entre les États-Unis et les insurgés, un prérequis à l'ouverture de négociations de paix directes sans précédent. Le président afghan Ashraf Ghani avait cependant rejeté cette demande avant de proposer un compromis au petit matin. Soucieux de ne pas faire dérailler un processus de paix fragile, censé leur permettre de mettre fin à la plus longue guerre de leur histoire, les États-Unis ont exhorté les deux parties à se retrouver à Doha pour des discussions immédiates avant de finaliser cet échange de prisonniers et ouvrir ainsi la voie aux véritables négociations inter-afghanes.
Et puis le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé ce mercredi qu'un accord russo-turc de cesser le feu à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, avait commencé à être violé. Il a exhorté Moscou à prendre des mesures pour y remédier. Même s'il s'agit de petits incidents, ça et là, le cessez-le-feu a commencé à être violé. Nous partageons ces développements avec la Russie et attendons que des mesures soient prises, a déclaré Erdogan lors d'un discours à Ankara. Les députés russes ont adopté aujourd'hui en dernière lecture la réforme constitutionnelle portée par Vladimir Poutine, qui ouvre notamment la voie à son maintien au pouvoir, théoriquement jusqu'en 2036. Le texte voté définitivement mercredi contient l'amendement adopté la veille en deuxième lecture par les députés pour réinitialiser son compteur de mandat présidentiel afin de lui donner le droit de se représenter en 2024, mais aussi en 2030.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'épidémie de coronavirus qui a contaminé plus de 110 000 personnes dans le monde depuis fin décembre peut être caractérisée comme une pandémie, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse à Genève, faisant part de sa profonde inquiétude face au niveau alarmant d'inaction de la communauté internationale face au niveau alarmant donc de la propagation du COVID-19. Le directeur de l'OMS a dit s'attendre à voir le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de pays touchés augmenter dans les jours et semaines à venir. De la limitation des déplacements aux fermetures en cascade de lieux publics, le COVID-19 perturbe la vie quotidienne des populations dans le monde. Le Koweït suspend tous les vols à partir de vendredi. Le Qatar a enregistré 230 nouveaux cas. La Côte d'Ivoire a confirmé son premier cas, un homme ayant séjourné en Italie. Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa s'est mis en quarantaine pour 2 semaines par précaution, ainsi que le président du Parlement européen David Sassoli. Nathalie Barge.
L'Iran a annoncé la mort de 63 personnes supplémentaires, portant le total à 354 morts. L'Albanie et la Bulgarie ont annoncé les premiers décès dans les Balkans et la Suède le premier dans les pays nordiques. L'Italie a ordonné à ses 60 millions d'habitants de ne pas quitter leur domicile, sauf pour travailler, se faire soigner ou acheter à manger. Toutes les écoles et universités sont fermées jusqu'au 3 avril. Plusieurs compagnies aériennes ont interrompu les liaisons avec la péninsule. Les écoles sont également fermées en Pologne, en Grèce, en République tchèque et en Roumanie. Malte suspend ses liaisons aériennes avec la Suisse, l'Allemagne, la France et l'Espagne. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a confirmé le cas d'un malade détecté hier. Les rassemblements ont été interdits dans plusieurs pays et de nombreuses compétitions sportives ont été annulées. Depuis décembre dernier, plus de 118 500 cas d'infection ont été recensés dans 110 pays, causant la mort de plus de 4 281 personnes.
Ici aux États-Unis, suite des primaires démocrates, après une nouvelle série de victoires pour Joe Biden, son duel contre le président Donald Trump pour la présidentielle est de plus en plus probable. Claire Morin-Gibourg.
En gagnant dans le Mississippi, le Missouri, l'Idaho, mais surtout le Michigan, Joe Biden est désormais favori pour devenir l'adversaire du président Donald Trump en novembre prochain. Maigre consolation pour Bernie Sanders, le sénateur a remporté le Dakota du Nord, mais cet État n'attribue qu'un petit nombre de délégués dans la course à l'investiture démocrate. Comme il y a 4 ans, Bernie, comme il est surnommé aux États-Unis, a su électriser les foules autour de ses promesses d'assurance maladie universelle et d'études gratuites. Les jours à venir s'annoncent périlleux pour le Parti démocrate. En 2016, l'acrimonie entre l'équipe de Bernie et celle d'Hillary Clinton avait coûté cher à la candidate démocrate. Joe Biden a choisi de tendre la main à Bernie Sanders en louant l'énergie et la passion de ses troupes, tout en mettant l'accent sur l'unité nécessaire. Nous avons le même but et ensemble, nous battrons Donald Trump, nous rassemblerons ce pays, a ajouté l'ancien vice-président de Barack Obama.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, on en parle, c'est avec Nani Talani.
L'opposition sud-africaine demande la privatisation du secteur public d'électricité pour permettre la concurrence. Elle appelle le gouvernement à accélérer le processus de scission de la société publique Eskom afin de la sauver d'un effondrement complet. Injecter plus d'argent dans l'entreprise ne la sauvera pas, estime l'opposition, suggérant que les municipalités soient autorisées à se procurer de l'électricité directement auprès des producteurs indépendants d'énergie pour que les usines continuent de fonctionner et que les économies avancent. L'Éthiopie a annoncé son intention de commencer à remplir son grand barrage sur le Nil en juillet de cette année, alors que ce remplissage est en principe assujetti à la signature d'un accord rédigé par les États-Unis et que l'Éthiopie n'a pas encore signé. L'accord exige notamment que le remplissage du barrage soit arrêté pendant la sécheresse jusqu'à ce que les conditions reviennent à la normale. L'Égypte est préoccupée par son approvisionnement en eau, le Nil étant sa principale source d'eau douce, surtout en période de sécheresse. Pour terminer, l'Organisation des pays producteurs de pétrole a revu fortement à la baisse sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole de cette année, sous l'effet associé du ralentissement économique et de l'extension hors de Chine de l'épidémie de coronavirus.
Et nous voici donc en sport et c'est avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Commençons par la Zambie, qualifiée pour les JO 2020 en football.
Oui, les Zambiennes se sont qualifiées à domicile grâce à leur victoire 2-1 face aux Lions indomptables du Cameroun. Ces dernières avaient remporté la manche aller 3-2 à Yaoundé, 4-4 donc sur l'ensemble de cette double confrontation. La règle des buts inscrits à l'extérieur permet ainsi à la Zambie de se qualifier directement pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Quant aux Camerounaises, elles devront disputer un match de barrage pour espérer décrocher le dernier ticket féminin pour les Jeux Olympiques. Les Lions indomptables feront face à l'équipe chilienne, barragiste de la Confédération Sud-Américaine de football. Cette double confrontation qualificative se disputera le 9 et 15 avril prochain.
La VAR sera utilisée dès les demi-finales de la Ligue des champions CAF.
Oui, la technologie d'arbitrage par assistance vidéo sera utilisée lors des demi-finales entre le Wydad Athletic Club de Casablanca et Al Ahly du Caire d'un côté et le Raja de Casa et le Zamalek d'Égypte de l'autre côté. Les matchs aller auront lieu le 1er mai et les retours le 8 mai. La VAR devrait permettre de limiter au maximum les erreurs d'arbitrage. Pour rappel, l'utilisation de cette technologie en finale de la Ligue des champions l'année dernière a engendré ce qui est aujourd'hui appelé le scandale de Rades. Les joueurs du Wydad ont contesté l'annulation de leur but qu'ils estimaient valable et demandé un recours à la VAR annoncée mais absente au stade. Depuis, la CAF a décidé de faire jouer les finales en un seul match et sur terrain neutre.
Et Yacouba, suite des huitièmes de finale, retour en Ligue des champions ce soir en Europe.
Oui, la victoire est impérative pour Liverpool, le tenant du titre, qui fait face à l'Atlético Madrid. Les Colchoneros sont sortis vainqueurs au match aller 1-0 face aux Reds. Leur hôte d'enfile Pour ce duel crucial, Liverpool pourra compter sur ses Africains Sadio Mané et Mohamed Salah, buteurs le week-end dernier en championnat, ainsi que le Guinéen Naby Keïta. Comme Liverpool, le Paris Saint-Germain voudra renverser la vapeur à domicile contre Dortmund, mais sans ses supporters, en raison du coronavirus, le PSG s'est incliné 2-1 au match aller en Allemagne.
Et on termine par la flamme olympique allumée en l'absence de spectateurs.
Oui, spectateurs interdits, nombre d'invités et de médias restreints, festivités annulées. Pour la première fois en 3 décennies, la flamme olympique sera allumée demain. En l'absence de spectateurs pour les JO d'été de Tokyo, la cérémonie a été repensée par le Comité international olympique pour cause du coronavirus qui touche 89 personnes en Grèce. La majorité des cas provient de la péninsule de Péloponnèse où se trouve Olympie. Berceau de l'olympisme dans l'Antiquité, la mairie d'Olympie a pour sa part décidé d'annuler tous les événements organisés à marge de la cérémonie. Expositions, rencontres et sorties scolaires ne figurent pas au programme de l'événement, réduit au strict minimum.
Merci, Yakuba.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, John Lyndon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. La Guinée, où les élections législatives couplées au référendum initialement prévu le 1er mars et reporté de 2 semaines par le président Alpha Condé, n'auront pas lieu ce dimanche 15 mars. Les experts de la CDAO travaillent toujours sur le fichier électoral qui cristallise les tensions dans ce pays. Pour une analyse, Yakuba Ouidraogo a joint Aboubakar Condé, rédacteur en chef de Sabari FM, notre station partenaire en Guinée.
Dans le fond de ce report annoncé par le chef de l'État, il y avait la volonté de calmer les jeux. La tension était vive dans le pays. Mais dans la forme, il y a eu vice de procédure parce qu'il ne revient pas au président de proposer une date. Il revient au président de valider ou d'invalider une date qui lui a été proposée par la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce que dit la loi. Le président a annoncé que les élections sont reportées pour 2 semaines, mais il revenait à la CENI de faire la proposition pour entériner ce choix du président de la République. Mais c'est vrai que de l'autre côté, il y a les experts de la CEDEAO qui sont au pays, qui doivent travailler sur le fichier électoral du 3 au 13 mars. Donc, mathématiquement, les filles doivent finir le travail après demain. C'est après cela maintenant, si ce résultat-là est accepté de tous maintenant, que la commission électorale va déposer une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour que cette requête soit validée et qu'elle puisse proposer une requête au président de la République.
Les experts de la CEDEAO doivent examiner le fichier électoral jusqu'au 13 mars. Mais entre-temps, qui a décidé que les élections n'auront plus lieu le 15 mars, comme le président Alpha Condé l'avait annoncé?
Le président a des intentions politiques. Il veut qu'il y ait ces élections parce qu'il y a la pression de part et d'autre. La communauté internationale, la communauté régionale et sous-régionale mettent la pression, mais également à l'interne. Parce qu'il y a des partis politiques qui sont candidats pour ces élections législatives qui avaient d'ailleurs menacé de mettre ça dans la rue ce mardi si aucune date n'est fixée pour la tenue des élections législatives. Et même, il y a des partisans du pouvoir en place qui exigent à ce qu'une date soit fixée pour aller à ces élections. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains membres du pouvoir en place qui reprochent à ce fichier électoral. Donc, ça veut dire que il n'y a pas une base légale, une base de compromis pour aller à ces élections-là. C'est ce qui fait que la CENI, qui est l'organe habilité à faire des propositions de dates au président de la République pour que ces dates-là soient validées, ne s'est pas mise dans la logique de proposer une date parce qu'elle dit qu'il faut qu'elle attende d'abord le résultat, la finalité du travail des experts de la CEDEAO et que chacun comprenne exactement quel est le problème du fichier électoral. Parce que vous le savez, il y a cette question de 2 400 000 électeurs sur le fichier électoral dont on ne connaît pas encore les provenances.
Le président Alpha Condé avait décidé de reporter donc les élections, eu égard bien sûr à la tension qui était très vive dans le pays, mais aussi les mésententes avec la CEDEAO sur le fichier électoral justement et l'Organisation internationale de la francophonie. Quel est l'état d'esprit des Guinéens en ce moment-là? Est-ce que la tension a baissé?
Depuis l'annonce de ce report, la tension a baissé d'un cran. Hier, le FNS avait fait appel à un jour de résistance. Les endroits qui sont censés être les plus réputés n'ont pas reçu assez de violence comme on a connu par le passé. Aujourd'hui, il y a de la calme par endroit, même si les opposants restent pessimistes quant à la volonté du chef de l'État de organiser des élections transparentes. Quand vous promenez à Conakry, vous n'entendrez pratiquement personne parler de ces élections-là. Les citoyens ont pratiquement oublié, et pour eux-mêmes, il n'y a plus d'élections.
Aboubakar Condé, rédacteur en chef de Sabari FM, joint à Conakry.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le combat pour l'égalité. Plus de 100 ans depuis que la Journée internationale des femmes a été célébrée pour la première fois. Je suis de la génération Égalité, levez-vous pour les droits des femmes est le thème de cette année. L'occasion pour nous de faire le point sur les avancées dans les domaines politiques, économiques et sociaux, mais aussi les obstacles. Le chemin encore à parcourir pour arriver à l'égalité. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de VOA.
Allons à présent en Mauritanie. Et depuis la découverte de réserves de gaz naturel à leur frontière, la Mauritanie et le Sénégal multiplient les gestes de rapprochement. Visite présidentielle et renforcement de la coopération bilatérale par la signature de plusieurs accords. À Nouakchott, Mohamed Diop.
La Mauritanie et le Sénégal vont former un couple producteur de gaz naturel. Mais les deux voisins veulent commencer par renforcer leur entente diplomatique. Macky Sall, président du Sénégal.
Nous avons des défis communs à relever, la main dans la main, dans un contexte de recrudescence du péril terroriste dans la zone sahélienne.
Le président de la Mauritanie, Mohamed Ouldou Razouani, abonde dans le même sens.
Le G5 apprécie hautement la disponibilité qu'exprime le Sénégal à contribuer à la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel.
Pour l'ancien haut fonctionnaire de l'ONI, Ahmedou Abdellah, c'est un bon départ pour des relations renforcées.
Il y a un bon body language, une bonne communication entre les deux personnalités.
En effet, les relations entre les deux pays ont été décomplexées. Récemment, à Nouakchott, les présidents des deux pays ont signé plusieurs accords. Certains concernent le futur pont sur le fleuve Sénégal reliant les deux pays. Une aubaine pour les riverains.
Qui ne mérite pas d'être parqué sous le vent, le soleil et la pluie pour pouvoir traverser le fleuve.
De même, les deux voisins améliorent leurs accords de pêche. Actuellement, Nouakchott donne 400 licences annuelles aux pêcheurs de Saint-Louis du Sénégal. Leurs compatriotes résidant en Mauritanie souhaitent y être associés. Ablaye Diaw, président des pêcheurs sénégalais en Mauritanie.
Ils nous laissent, oui, travailler, mais nous nous sentirons mieux avec un document à montrer en guise de licence de pêche. Ce serait beaucoup mieux.
Malgré des hauts et des bas dans leurs relations, Dakar et Nouakchott sont en route pour 2022, date prévue pour l'exploitation commune du gaz naturel découvert à leurs frontières. Les réserves situées à 2000 mètres de profondeur sont estimées à 450 milliards de mètres cubes. Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Cameroun, Tatabang Beyala est une jeune femme passionnée du cinéma qui a décidé de briser les barrières et s'imposer dans cette industrie dominée par les hommes. Elle a ouvert sa structure de production audiovisuelle avec son studio à Yaoundé. Entourée d'une équipe féminine de techniciennes, maquilleuses et assistantes, Beyala s'est dit prête à relever les défis. Plus de détails avec Blanche Sanou.
C'est bon?
Beyala est scénariste, réalisatrice, chorégraphe et monteuse vidéo. Après avoir décroché une maîtrise en cinématographie, elle a tout de suite voulu changer les choses dans cette industrie malgré les obstacles.
Le premier défi vient du fait que je suis une femme. J'ai beaucoup de gens qui ne font pas confiance à mon travail. Non pas parce que c'est mauvais. Ils ne croient même pas que c'est moi qui le fais.
Créée il y a 2 ans, Girl Boss Production emploie uniquement des femmes.
J'ai décidé d'avoir une équipe de production entièrement féminine. D'abord basée sur mon histoire, mon expérience, les difficultés que j'ai rencontrées et celles auxquelles je suis toujours confrontée. Donc je veux montrer aux gens de l'industrie du divertissement du Cameroun ou à travers le monde que ce n'est pas parce que nous sommes des femmes que nous devrions toujours nous contenter d'être des top modèles ou des actrices. Nous pouvons également faire d'autres métiers derrière la caméra.
La société de production a réalisé plus d'une cinquantaine de clips vidéo pour des artistes qui ont beaucoup de succès sur Internet. La plupart de ses fans pensent toujours qu'elle est un homme, malgré la touche féminine qu'elle intègre dans ses vidéos.
Mon style est très coloré, oui. Dans mes vidéos, vous voyez beaucoup de rose ou du bleu. Donc, j'essaie de mettre l'accent sur la touche féminine. Même si je dois faire une vidéo d'un style sombre, je m'arrange toujours à insérer le côté féminin, quelque chose de vivant.
Béala espère que sa société de production vidéo offrira une plateforme permettant à davantage de femmes de rejoindre l'industrie et de réussir.
Ici aux États-Unis, l'ancien vice-président Joe Biden s'approche un peu plus de la nomination démocrate pour faire face à Donald Trump en novembre. Ceci après ses victoires décisives dans le Michigan et trois autres États qui organisaient la primaire hier. Mais le sénateur Bernie Sanders est toujours dans la course. Pour faire le point, Abdourahman Dia a joint ici dans le Maryland le professeur de Georgetown University, Jean-François Seznec.
Maintenant, toute la communauté démocrate se met par derrière lui. Tout le monde a peur que s'il y a encore des bagarres, si vous voulez, au niveau de l'investiture, ça va créer des avantages à Trump. Tout le monde veut battre Trump. Je pense qu'effectivement, le jeu est fini pour Sanders.
Et dans son discours hier, Joe Biden a tendu la main à Sanders, justement. Est-ce que c'est pour éviter le syndrome de 2016 quand on a vu tous ces partisans de Bernie Sanders, pas tous en tout cas, certains bouder carrément le reste du processus?
Oui, absolument. Je pense qu'ils vont faire un gros effort pour essayer d'amener dans la tente démocrate, si vous voulez, d'amener les jeunes qui votaient pour Sanders, en fait. Et je pense que ça va être le gros effort de Biden maintenant et de toute la communauté, de tout l'establishment démocrate.
Qu'est-ce qui a été déterminant selon vous hier? Est-ce que c'est le fait que beaucoup voient en Joe Biden celui qui a le plus de chances de gagner face à Donald Trump, ou bien il y a d'autres facteurs?
Oui, effectivement, c'est lui qui a la seule chance de gagner contre Trump, parce que c'est en fait, c'est pas forcément le meilleur candidat au point de vue personnalité, si vous voulez, parce que Sanders a beaucoup plus de charisme que Biden, mais Biden a la capacité que n'a pas Sanders, c'est d'organiser toutes les coalitions dans la société qui veulent absolument battre Trump, c'est-à-dire les minorités, les femmes, les gens dans les banlieues, etc., les banlieues riches.
Mais Biden doit quand même gagner le cœur des plus jeunes et également de la communauté hispanique où il n'arrive pas encore à avoir de gros scores.
Oui, absolument. Mais ça, je pense que ce qui sera important de voir, c'est qui il va choisir comme
vice-président.
Comme vice-président, oui, absolument.
Vous pensez qu'il pourrait penser à une aile beaucoup plus libérale?
Mais oui et non, ça c'est à double tranchant. Hein. Bon, à mon avis, il va certainement prendre une femme. Mais quelle femme il va prendre? Je ne pense pas qu'il puisse prendre Warren, parce qu'elle est vraiment, elle horripile trop de gens dans le pays. Peut-être Amy Klobuchar, mais qui n'est pas vue comme étant libérale vraiment, ou bien Kamala Harris, peut-être, qui est quand même théoriquement africaine-américaine. Et et ces deux femmes sont d'une intelligence extraordinaire. Donc, quelqu'un comme dans ce style-là, je pense.
Jean-François Seznec de Georgetown University. Voilà, musique urbaine dans vos délicates oreilles de Phoenix Family, un groupe de jeunes togolais qui vivent donc ici aux États-Unis et qui étaient là lors du 60e anniversaire de VO Afrique. Et Et donc, c'est avec cette musique qu'on met fin à cette édition mise en onde par Georges Léonard Sagnot. Nick Ivanov était à la console. John Lyndon était à la présentation de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. Bonsoir.
Si tu t'en vas, moi je perds la boule. J'y ai mon Asie si je deviens fou. Ne coupe pas tes copines, il s'agit de nous. C'est vrai que des fois je te corne un peu. Mon amour, c'est du vrai, ce n'est pas le jeu. Être ensemble dérange, il veut nous voir ce. On s'est dit qu'on se pirait pour le meilleur. Maria. I feel so sad in this white world, so we are my number one. I feel empty, come back, I'm feeling now. I baby feeling all good, my dog, blah, 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 blah. The thing goes clear, blah, 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 blah.
VOA Afrique.